La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du dernier numéro de la mêlée de l'info pour cette saison. Dès lundi, Radio Présence passe en grille d'été et cette émission ne reprendra donc qu'en septembre. En attendant, la campagne express des législatives occupe très largement l'actualité politique et même l'actualité en général. Nous allons en débattre avec Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, et Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, soutien du Nouveau Front Populaire. Bienvenue également à vous deux, merci d'être fidèles à ce rendez-vous de la mêlée. Je précise qu'on devait avoir un troisième participant, Gabriel Robin, qui a eu un problème de dernière minute, donc il n'a pas pu être avec nous ce soir. C'est regrettable, mais on va bien se débrouiller tous les trois. Emmanuel Macron ne reste jamais très longtemps sans intervenir dans les médias. Il s'est exprimé lundi dans le podcast Génération Do It Yourself, où il a justifié de nouveau sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a d'autre part déclaré que les résultats des législatives ne seraient, je le cite, la faute de personne, mais qu'ils relèvent de la responsabilité des Français. Deux autres de ses interventions ont particulièrement fait réagir. Celle où il a dit que la réponse de l'extrême droite en matière d'insécurité, parce qu'elle renvoie les gens à une religion ou à une origine, divise et pousse à la guerre civile, puis celle où il a mis en cause les insoumis, qui proposent selon lui une forme de communautarisme, et ça c'est aussi la guerre civile derrière, a-t-il ajouté. Comment interprétez-vous ces déclarations du chef de l'État? Est-ce qu'il s'agit d'effrayer les électeurs ou voyez-vous, comme lui, un vrai risque de guerre civile en France en cas de victoire du Rassemblement national ou de la France insoumise et de ses soutiens aux législatives? Et nous allons commencer avec Guillaume Agulot.
Bonsoir et merci pour votre invitation. En fait, votre question est multiple et soulève plusieurs aspects. Et dans l'intervention et même les interventions, hein, parce qu'effectivement, il est assez accoutumé du fait en ce moment, dans les interventions d'Emmanuel Macron, je vois deux choses dont il faut parler et distinguer. C'est la forme et le fond. Sur la forme, ça nous montre plusieurs choses. D'abord, il est extrêmement compulsif dans ses prises de parole, y compris quand tous ses amis lui disent de manière aussi pressante que possible « Maintenant, il faut arrêter, parce que plus personne ne veut l'entendre, il faut se le dire tranquillement.
» Ça, fait c'est un aspect qu'on va revenir dessus.
On en parlera, je pense, mais déjà sur la forme, cette nécessité, malgré tout, de à chaque fois vouloir dire « Oui, mais les Français ont besoin que je parle, etc. », montre bien que il n'a toujours pas compris ce qu'est le message, pas simplement aux élections européennes d'ailleurs, mais d'une manière générale, ce qu'est le message général par rapport à sa manière d'être et sa manière de présider, et particulièrement sur cette seconde présidence. Ça, c'est la forme. Après, il y a le fond. Le fond, effectivement, on n'est pas déçu parce qu'on a toujours la même chose, on entend toujours la même chose. C'est toujours la même rengaine, simplement à des degrés, à des niveaux qui peuvent évoluer dans le temps. Et là, après avoir entendu « après moi le chaos », aujourd'hui, sa méthode, c'est de nous dire « en dehors de moi, le chaos ». Je suis le seul capable de vous apporter joie, bonheur, stabilité, développement, progrès, etc. etc. On ne peut pas quand même écarter ce qu'il dit d'un revers de main, parce qu'on est quand même dans une situation où nous vivons une campagne électorale extrêmement violente, extrêmement violente.
Comme on pouvait s'y attendre.
Comme on pouvait évidemment s'y attendre. C'est très tendu, c'est vraiment très très violent, donc c'est pas sans rien. On est en plus dans un contexte international qui est ce qu'il est, et on est dans un contexte ultramarin qui lui aussi impacte. Il a évoqué le terme de guerre civile. Et il s'est résolument refusé d'utiliser ce terme-là, pour moi, dans ces cas-là, a raison, pour les émeutes, parce que là, au minimum, on peut parler d'émeutes, qui ont lieu, par contre, en France, même si c'est très très loin, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie. Parce que là, quand même, on était dans une situation d'émeute, et on peut même le dire très tranquillement, pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, insurrectionnelle. C'était pas une guerre civile parce que l'insurrection a été contrôlée, l'insurrection a été brisée et l'ordre républicain extrêmement précaire est quand même progressivement revenu, même si une décision d'un procureur général d'incarcérer des leaders indépendantistes de la Kanaky en métropole à 14 000 km de leur île n'est pas forcément de nature à apaiser une situation qui... voilà. Par contre, il va poser des mots qui sont extrêmement forts et extrêmement symboliques, de guerre civile. Et là, c'est quand même un petit peu étonnant. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que la guerre civile sera la responsabilité et la faute des deux côtés. Des deux côtés. C'est très étonnant parce que pendant très très longtemps, il a été fait reproche de mettre un signe égal entre deux blocs qui sont présentés comme des blocs extrêmes. L'un qui ne fait strictement aucun doute, structurellement comme étant un bloc extrême, c'est l'extrême droite, et un autre dont le Nouveau Front Populaire, dont une partie, une fraction, certes conséquente, a un discours extrême,
radical,
radical, mais dont les autres composantes s'ancrent quand même plutôt dans un fonctionnement, on va dire, plus social-démocrate et plus respectueux des individus, des traditions et des institutions. Donc on est vraiment dans ce chemin-là, un peu étonnant, où je refuse de dire ce qui aurait pu avoir du sens pour ce qui se passe quand même en France, même si c'est très très loin, et où je pose par contre ce mot pour une situation qui se passe sous nos yeux, dont il ne faut absolument pas se masquer la réalité. C'est très dur et c'est très violent. Il est probable, hein, disons-nous-le, qu'il y ait des mouvements très tendus au soir du premier tour et possiblement au soir du second tour des élections, des banlieues qui s'embrasent, des centres-villes où ça pète, des mouvements, des barricades, des actions violentes. Il y en a eu après les Européennes à Toulouse, hein, nous ne nous voilons pas la face. Est-ce qu'on peut pour autant parler de guerre civile? Bon, on va pas de nouveau citer les grands auteurs, mais malgré tout, hein, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je crois que la France a suffisamment de malheurs et de problèmes en ce moment, sans en rajouter là où il n'y en a pas besoin d'y en avoir.
La guerre civile, ça voudrait dire qu'il y a aujourd'hui en France des gens qui ont des armes chez eux, qui sont prêts à les utiliser si d'aventure il y avait une situation qui sortit des urnes qui ne leur convient pas. Thibaut Casal.
Ben, déjà... Pourquoi aujourd'hui on est dans cette élection législative? Parce qu'on a un homme qui est président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc le climat délétère qui est actuellement, c'est aussi non seulement la faute de sa politique depuis 2 ans, mais en réalité depuis 7 ans, et de sa décision, vous parliez de compulsif, en fait c'est une décision impulsive de sa part, de dissoudre l'Assemblée nationale après l'élection européenne. Il dissout cette Assemblée nationale et du coup, pour la première fois, il permet, pour la première fois depuis 1939, l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Bon. À cause d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, si le climat il est tendu, c'est sa faute. Aujourd'hui, on peut voir que l'extrême droite se permet de faire des choses que jamais je n'aurais cru possible en France. C'est vrai que cette élection législative, pour, moi je le vois, hein, tous les jours, j'arrête pas, hein, je tracte, je fais des porte-à-porte, je suis partout, sur les, j'essaye d'être dans un maximum de circos en Haute-Garonne, et je vois bien que le climat est très tendu et qu'il y a une vraie violence présente. Et cette violence, elle ne vient que d'un côté, elle ne vient que de l'extrême droite. L'extrême droite qui se permet de mettre un coup de tête à un militant écologiste. L'extrême droite qui se permet de menacer des personnes dites racisées en leur expliquant que dans 3 semaines, ils pourront les tuer. C'est ça ce qui se passe actuellement.
Vous avez entendu des gens menaces... dire ça.
Moi, là, ça, c'est simple. Parce c'est les faits divers. C'est pas en Haute-Garonne. C'est pas en Haute-Garonne. Mais là, tout ce que je viens de dire, c'est clair et net. C'est des choses qui se sont passées. C'est pas en Haute-Garonne. Mais c'est clair et net que ce sont des choses qui se sont passées en France, là, sur la dernière semaine.
Ce sont des choses qui vous auraient été
rapportées. Mais c'est des choses qui n'ont pas été rapportées. Hein. C'est des choses que vous pouvez trouver des articles de presse là-dessus. Parce que ce sont de vraies réalités.
Donc il y a des plaintes qui ont été déposées, je pense.
Je pense, oui. Et j'espère, surtout. J'espère. On a des rassemblements d'extrême droite qui se préparent à faire... qui se préparaient à faire de la MMA sauvage, etc. Et on a les forces de police qui encadrent, mais qui ne les arrêtent pas. Qui n'arrête pas ces rassemblements, qui n'essaye pas de arrêter cette escalade de la violence. Et sur ce climat, sur cette question, plutôt que climat, sur cette question de la guerre civile, je ne pense pas que la victoire, soit du Nouveau Front Populaire, soit du RN, amènera un climat de guerre civile. Si on en arrive là, ce que je n'espère absolument pas, ce sera la faute de qui ? Ce sera la faute de Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron qui, pendant 7 ans, a fait une politique de casse sociale, a fait une politique où il n'a pas arrêté de faire en sorte que les personnes les plus précaires soient de plus en plus précaires, que les plus riches soient de plus en plus riches, que la classe moyenne s'effondre. Et tout ce climat amène à ce qu'aujourd'hui, des personnes se disent « on n'a jamais essayé l'extrême droite, on n'a jamais essayé l'extrême droite, et pourquoi pas, pourquoi pas ?» Mais déjà, à ces personnes-là, il faut leur dire que si, l'extrême droite, malheureusement, on l'a déjà essayé. Hein. Ça s'appelait l'État français, ça a duré de 1939 à 1944. Hein.
Pour vous, on est dans la même situation, c'est-à-dire que les gens du Rassemblement national, vous les mettez dans le même panier que les gens qui étaient pétainistes entre 40 et 44.
Ben, le Rassemblement national est un parti qui, il y a quelques années, et vraiment, c'était pas si longtemps, s'appelait le Front National. Le Front National a été créé par notamment Monsieur Bousquet, qui était un Waffen-SS, des personnes membres de l'OAS, des personnes membres de Vichy. Donc oui, ce sont les héritiers de Vichy.
Ce sont les mêmes aujourd'hui.
Ce sont les héritiers de l'Action française. Ce sont les héritiers de ceux qui ont manifesté le 6 février 1934. Ce sont les héritiers de l'extrême droite. Et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, si on parle de climat de guerre civile, là encore, ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, on peut encore une fois en mettre la responsabilité sur M. Macron et sur les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Donc, et juste pour dire quelque chose, Macron parle de deux extrêmes. Il n'y a pas deux extrêmes, il n'y a qu'un seul extrême, c'est l'extrême droite. L'extrême droite. Et pour ça, c'est simple, alors je ne suis pas juriste, mais je vais quand même me référer au Conseil d'État. Le Conseil d'État a statué sur le fait que LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, c'est un parti de gauche. L'extrême gauche, ça va être Lutte Ouvrière, par exemple. Voilà. Le Nouveau Front Populaire n'est pas d'extrême gauche. François Hollande, qui est candidat, est-il d'extrême gauche? Enfin, si on va me dire que François Hollande est d'extrême gauche, je suis anarchiste. Alors, ouais. Donc,
il faut quand même être précis sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a bien parlé des Insoumis. Hein. Il n'a pas parlé du Nouveau Front Populaire.
Oui, mais si on parle des Insoumis, ça en revient au même. C'est une alliance.
Le fait est
qu'on est tous et tout ensemble.
Les Insoumis sont dans le Nouveau Front Populaire, effectivement. Oui. Guillaume Agulot, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Thibault Cazal?
Non, je ne suis pas d'accord sur tout. J'ai plusieurs points de divergence, certains un peu mineurs de précision, d'autres peut-être pas. Au niveau de la chronologie, la dernière fois que l'extrême droite est arrivée en fait aux portes du pouvoir en France, c'est pas les second tours des élections présidentielles qu'on a connues où le danger était réel, mais la réalité.
Oui, enfin, les scores du second tour montraient qu'il était.
La dernière fois, c'était quand même.
La dernière fois, c'est 1961. C'est 1961 lorsqu'il y a eu un putsch quand même de militaires de l'OAS dont l'objectif était très clairement de renverser la République et de mettre en place un régime voilà. Bon.
L'OAS dont des membres ont créé le RN, enfin le FN à l'époque.
Ça c'est une certitude. Là où je suis pas d'accord, pour revenir un peu plus sur notre actualité, c'est que pour moi, pour vous j'ai entendu, hein, mais pour moi non, l'intégralité des membres du Nouveau Front Populaire, c'est pas la même chose que LFI. Pour moi, il y a un vrai problème dans ce Nouveau Front Populaire, c'est que des partis qui n'ont pas des prises de position extrémistes ou antisémites ont accepté de se mettre ensemble avec un parti dont des leaders ont des prises de position régulières, récurrentes, ça aussi on le sait, extrémistes ou antisémites. C'est la différence avec, j'allais dire, l'autre extrême. Parce que pour moi, les propos tenus par les tweets, les paroles publiques, hein, que ce soit de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit de Rima Hassan, que ce soit de... etc. Enfin, je veux dire, on en a Flores, David Guiraud, Sébastien Delogu, encore avec cette publication de vidéo, sont très clairement des propos de nature extrémiste. Mais vous avez le droit d'avoir un avis différent, il n'y a pas de problème.
Vous allez répondre, Thibault.
Mais objectivement, c'est néanmoins le cas. C'est pas le cas des autres composantes du Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire que là, on a, au sein de cet aréopage qui s'est quand même construit, alors ça a déjà été débattu ici, on va pas y revenir, mais c'est quand même construit aussi vite qu'il est fragile sur ses pieds et sur ses bases. On a réussi à construire quelque chose, forcément la rapidité a fait que rien n'a été réglé sur le fond et donc on a des bases qui sont quand même un petit peu difficiles, on en parlera je pense lors de notre
il y a un deuxième débat deuxième, où on va parler de Jean-Luc Mélenchon
lors de notre deuxième sujet bien évidemment. De l'autre côté, si j'ose dire, du côté du RN, ils ont réussi à récupérer un allié. Enfin, et quand je dis un allié, je me demande si je parle d'un mouvement ou d'un individu, tellement on est dans
quelque chose. Il y en a quelques-uns qui l'ont suivi.
Ils ont quand même quelques-uns, effectivement, à avoir suivi Éric Ciotti. Par contre, là, on a un allié, enfin, un inféodé, hein, soyons clairs, qui lui calque directement ses positions, c'est-à-dire non, moi j'ai plus de propositions en tant que telle, mes propositions c'est, mon programme c'est devenu, etc. Et on a quand même là, on a un bloc monolithique, le RN est un bloc, le FN est un bloc monolithique, contrairement au nouveau Front Populaire. Je crois que le vrai danger, il est là. C'est-à-dire qu'on a un assemblage hétéroclite qui, encore une fois, le mérite d'avoir réussi à se réunir. Ça, c'est un véritable mérite. Reconnaissons-le. Qui aurait dit
il y a un mois, tout le monde pensait que la NUPES avait vécu.
Qui aurait dit il y a un mois, on sort effectivement de l'expérience extrêmement douloureuse de la NUPES, qui aurait dit qu'en 3 jours, une union aurait pu se faire, sincèrement.
Et là, il n'y a pas d'opportunisme, vous pensez, du côté du nouveau Front Populaire?
Non, en fait, il y a une réalité de la société, c'est qu'en ce moment précis, il faut se réunir pour contrer l'extrême droite, c'est tout.
Il y a une lecture, effectivement, qui amène à... bon, de fait, cette lecture a amené à privilégier l'instant au fond. Parce que les divergences de fond...
L'urgence,
effectivement, aux problèmes de fond. Parce que les problèmes de fond, ils y sont. Et j'ai évoqué, évidemment, les questions des positionnements sociétaux, et notamment de l'antisémitisme, qui est un vrai problème. Moi, excusez-moi, pardon, mais je suis atterré que le nouveau Front Populaire se sente obligé de faire une charte contre l'antisémitisme, signée par tous les membres du nouveau Front Populaire, sauf évidemment, LFI qui nous dit « nous avons notre propre charte ». Mais dans les deux cas, mais dans quel monde est-on? Pourquoi faut-il une charte contre l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a encore besoin aujourd'hui de rappeler à ce micro que l'antisémitisme dans ce pays, c'est un délit qui relève du pénal? Pas d'une charte de bonne conduite, de décision de justice, pour lesquelles d'ailleurs il y a un nombre de plaintes hallucinant qui est déposé systématiquement mot après mot. Il n'y a aucune condamnation, oui, parce que la justice, elle prend son temps. On verra, on en reparlera au moment où ces décisions de justice seront rendues les unes après les autres sur tel ou tel propos, ce qui est d'ailleurs faux. Il y a déjà, à plusieurs reprises, David Guiraud, par exemple, a déjà été condamné à 2 reprises pour des propos de nature antisémite. Donc, parce que ça ne sort pas depuis le 7 octobre ou depuis le mois d'avril.
C'est pas du jour au lendemain,
voilà, c'est... des partis politiques, des structures politiques ont décidé que le plus important, c'était l'immédiateté. Et donc, on a décidé de mettre ça sous silence. Moi, je suis extrêmement inquiet. Puisqu'on parlait de la situation, c'est ça. C'est-à-dire que le fond même de ce qu'est censé être cette gauche universaliste, laïque, qui porte et qui défend des logiques, on a totalement cédé le pas, en raison de l'urgence, à un parti, LFI, qui a réussi à imposer ses visions, c'est-à-dire surtout qui a réussi à faire enlever ce qu'ont été les principes historiques de la gauche pendant 80 ou 100 ans, que le faire enlever du socle sur lequel se présente le nouveau Front Populaire aujourd'hui, qui, au niveau du fonctionnement programmatique sociétal, pas économique, pas social, sociétal, a pas grand-chose à voir avec ce qu'était le Front Populaire de 1936. Mais bon, à la limite, c'est pas très très grave, puisque Jean-Luc Mélenchon nous a expliqué que Mathilde Panot avait infiniment plus d'expérience que Jean-Luc Mélenchon, il risque certainement pas de dire ça, que Léon Blum, quand on est à ce niveau de méconnaissance je veux dire, à ce moment-là, on peut tout se permettre, y compris des choses qui sont totalement en contradiction avec tous les engagements de gauche. Le problème, c'est que malgré le score très honorable de Raphaël Glucksmann aux élections européennes, ça a été littéralement un feu de paille, puisque LFI a repris la main, impose son tempo, impose ses discours, et est en train de radicaliser un plus grand nombre de gauches. Et peut-être que le danger, il est là. On a un bloc à l'extrême droite qui est déjà radicalisé intégralement.
Non, mais qui est un vrai bloc. C'est
un vrai bloc.
Il ne va pas s'effriter les élections passées.
Qui est à la fois un socle et une construction et un bloc, qui est un monolithe de haine pure. Et en face, on a une structuration encore hétéroclite extrêmement bancale, très très fragile, et qui est en train, dont le noyau dur est en train, malgré tout, de continuer à se radicaliser. Pour moi, le vrai danger, il est là.
Alors, Thibaut Casal, j'imagine que vous voulez répondre. Alors, d'abord, tout de même, sur l'accusation d'antisémitisme, pour, pas tous les élus et les filles, hein, soyons quand même précis, pour certains élus et les filles, et même pour Jean-Luc Mélenchon lui-même, est-ce que vous réfutez complètement ça?
Bah, que Jean-Luc...
Évidemment, comme ils sont dans votre alliance, alors, ça pose des questions.
Même si c'est le débat d'après, mais bon, c'est sûr qu'on en arrive tout le temps en ce moment à parler de Jean-Luc Mélenchon.
Emmanuel Macron a parlé, d'extrême concernant
mais,
les insoumis.
Oui, bah, ça j'ai déjà répondu. Hein, le Conseil d'État a déjà dit que LFI n'est pas extrémiste, c'est un parti de gauche. Pour ce qui est de l'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon a eu des paroles... plus que déplacé. Quand il dit que l'antisémitisme est résiduel en France, ce n'est pas vrai. C'est une bêtise que de dire cela. Ce n'est pas être à la hauteur que de dire cela. Mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant que je dirais que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Et s'il était antisémite, un procureur de la République se serait déjà chargé de son dossier et il serait déjà entre les mains de la justice. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, ce qui est quand même par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que au niveau national comme local, il y a eu un communiqué de presse très précis sur que le nouveau Front populaire combat l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Parce que faut quand même aussi, c'est très important, c'est qu'en ce moment, et je le comprends parce que malheureusement, oui, il y a de plus en plus d'actes antisémites dans notre pays et c'est quelque chose de très grave, mais il ne faut pas aussi oublier toutes les autres formes de racisme qui existent dans notre pays et notamment l'islamophobie. Mais il y a eu un communiqué au niveau national signé par Manuel Bompard, Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel, et au niveau local, le comité de liaison du Nouveau Front Populaire 31 a signé lui aussi un communiqué de presse avec les signatures pour la France Insoumise de Agathe Roby et de Frédéric Borras. Le Parti Socialiste a signé, Place Publique a signé, Génération a signé, le PCF a signé, les écologistes ont signé. Donc il n'y a aucun débat sur le fait que au sein du Nouveau Front Populaire, il n'y a pas d'antisémitisme dans le Nouveau Front Populaire. Et autre chose, moi je tiens à dire que contrairement à ce qui a été dit avant, le nouveau Front Populaire est un héritier du Front Populaire. Parce que nous portons la réduction du temps de travail, nous portons la hausse des salaires, nous portons une volonté de paix. Une volonté de paix, c'était paix, pain, liberté, le slogan en 1936. On pourrait le mettre aujourd'hui parce que le blocage des prix, ce qui va monter le pouvoir d'achat et ce qui va permettre aux Français et aux Françaises de mieux manger, de même manger pour certains et certaines qui sont de plus en plus précaires, ce sera grâce au nouveau Front Populaire. Ce qui pourra apporter la paix, ce sera grâce au nouveau Front Populaire. Et ce qui apportera le plus de liberté, ce sera aussi grâce au nouveau Front Populaire. Liberté pour tous et toutes, surtout. Parce que nous, on ne fait pas de distinction selon notre origine, selon une autre nationalité qu'on pourrait avoir. Moi-même, j'ai double nationalité. Je ne vois pas pourquoi je serais moins français que d'autres, contrairement à ce que pense M. Bardella. Ensuite, ce n'est pas qu'une réunion de circonstances entre les partis de gauche. Enfin, on est quand même les seuls à se présenter à cette élection avec plus de 150 propositions où on est tous et toutes d'accord. Socialistes, communistes, insoumis, verts, génération, on est tous et toutes d'accord. Même Raphaël Glucksmann est d'accord aussi là-dessus. Si on prend les acteurs des européennes, tous les acteurs de gauche sont d'accord là-dessus, sur 150 propositions. Le RN, toutes leurs propositions, le lendemain, ils reviennent dessus. La retraite, c'est 66 ans. On est les seuls qui proposent quelque chose de chiffré, ou même des prix Nobel d'économie soutiennent ce programme-là. Donc, on est les seuls à proposer de vraies propositions. Gauche radicale. Alors, moi, j'aurais pas spécialement de honte de dire que je serais d'une gauche radicale, mais gauche radicale, mettons-nous par rapport à la société actuelle.
C'est dans les moyens employés ou c'est dans les buts poursuivis ?
Non, mais notre programme, il porte une certaine radicalité. Alors oui, face à la société capitaliste, oui, il porte une certaine radicalité. Mais est-ce que le programme de 1924 est plus radical que celui de 1981 ? Non. Est-ce qu'il est plus radical que le programme du Front Populaire ? Non. Non, c'est une réalité. Aujourd'hui, notre programme est beaucoup moins radical que n'était le programme commun qu'a porté François Mitterrand. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous taxer d'être des gauchistes, des extrémistes, alors que notre programme est moins radical que ne l'était celui d'un président de la Ve République qui s'appelait François Mitterrand.
Guillaume Agulot, vous qui êtes historien, justement, les points d'histoire que soulève Thibaut Casal, vous êtes d'accord avec... Vous êtes tous les deux historiens, pardon.
Nous sommes tous les deux historiens, effectivement.
Il est historien aussi, puisqu'il est enseignant en histoire-géographie.
C'est bien pour ça que, quand j'ai expliqué les distinctions, j'ai bien pris le soin de séparer le programme social du nouveau Front Populaire, qui porte effectivement et qui s'inscrit dans une tradition
réduction
qui commence même
travail,
avant
augmentation
1936, on est bien d'accord. Bien la chambre de 1919, déjà on retrouve des choses qu'on entend aujourd'hui. Ça veut dire quand même que c'est des mesures dont on nous parle depuis 100 ans. Il serait peut-être effectivement temps de commencer à les mettre en musique. Et ce programme social, encore une fois social, a toujours attiré la peur de tous ceux qui voient leurs privilèges s'amenuiser, s'affaiblir ou partir. Puisqu'on parlait justement de radicalité et qu'on parlait, Thibault parlait fort justement effectivement de la gauche qui arrive au pouvoir en 1981 avec les fameuses 110 propositions dont on a retenu...
Il y avait le programme commun et après les 110 propositions.
On a retenu, enfin comme par hasard, Mitterrand, il y a une vingtaine de propositions qu'il n'a pas appliquées. Oui, enfin, ça veut dire qu'il en a appliqué 90.
Ça fait long feu. Enfin,
c'est ouais. Ce qui est beaucoup plus qu'Emmanuel Macron dans son programme de 2017.
C'était un programme. En face, il y a quoi ? En face, le programme, effectivement, il est beaucoup plus restreint. Alors, c'est bien quand on est feignant parce que à lire, ça va plus vite. Le problème, c'est qu'on n'est pas là juste pour décider en 3 minutes, on est là, a priori, je dis bien a priori, pour organiser les 5 années qui suivent. Ça, c'est une vraie chose. Et pour organiser 5 années qui suivent, je pense qu'il faut autre chose, simplement qu'un texte sur lequel de l'encre à peine fini de sécher pour que les personnes qui ont manifesté leur accord commencent à s'écharper par ailleurs, parce que ça ne pourra pas tenir. Mais au moins, il y a un programme. Il y a moyen. Alors, je laisse la responsabilité aux uns et aux autres, qu'ils soient économistes, prix Nobel ou autres, d'emporter d'en jauger l'efficacité, etc. On rappelle juste que la France est sous la menace, très clairement expliquée la semaine dernière, de sanctions par l'Union européenne pour une mauvaise gestion
à cause d'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire.
Des déficits, à cause notamment peut-être d'individus, mais peut-être aussi d'une situation qui a été celle de la pandémie, celle de l'accompagnement
et du quoi qu'il en coûte,
aides, celle du quoi qu'il en coûte, sur laquelle on a aussi largement parlé aujourd'hui. Macron qui, après en avoir trouvé partout, nous a quand même rappelé il n'y a pas longtemps, en ayant peut-être découvert ça lui-même, qu'il n'y avait pas d'argent magique. Parce que effectivement, on est sur cette situation-là. Mais pour revenir aussi à la question de fond sur le risque et le danger, en fait, je l'ai un peu dit en creux. Moi, ce que je risque, au-delà même de ce résultat de ces élections, quel qu'il soit, c'est que, pour tout vous dire, pour vous donner le fond de ma pensée, j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas, je pense que le moindre mal aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue, parce que s'il y a une majorité absolue, je pense qu'elle sera d'extrême droite.
Aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, si on regarde les sondages, tout simplement, voilà. Effectivement, aujourd'hui, le RN arrivera en tête, il y a très peu de sondages tout de même qui lui donnent une majorité absolue à ce jour.
Ça c'est pour ça que dire, ici,
il peut se passer beaucoup de choses. Il y a 1% de différence avec la gauche.
Il peut se passer des choses.
Il peut se passer beaucoup de choses entre le 30 juin et le 7 juillet, attention.
Mais pour l'instant, comme on a un bloc monolithique face à un aréopage, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on est dans une situation ingouvernable, temporairement, ça sera peut-être un peu plus facile. Le problème, c'est que si c'est ingouvernable, si on n'a plus la légitimité républicaine pour gouverner...
Ben on se dirige vers une crise de régime tout de même. Hein,
alors on sait ce qui va se passer. S'il n'y a plus l'autorité de l'État et l'autorité de la puissance publique, et on voit qu'elle est déjà attaquée partout, des services publics qui sont largement sabrés, qui ne fonctionnent plus, et là pour le coup, on va se retrouver évidemment, on sait très bien, quelles sont les logiques libérales qui sont à l'œuvre économiquement depuis des années dans ce pays qui nous mettent dans cette situation-là. Il n'y a aucun problème à poser ce constat qui n'est même plus idéologique. Qui est un fait, qui est un élément objectif. Si on est dans cette situation-là, avec une structure publique qui ne tient plus et une structure de fonctionnement républicain qui ne tient plus, alors, le risque, il commence à arriver à ce moment-là, parce que si l'État n'a plus ni les moyens, ni l'ambition, ni la capacité à maintenir l'ordre républicain, la nature ayant horreur du vide, là j'ai très très peur que ça soit la porte plus qu'ouverte à tous les extrêmes, quels qu'ils soient. Et peut-être que là, les germes de la guerre civile n'arriveront peut-être pas au lendemain du 7 juillet, mais peut-être dans quelques mois ou dans quelques années.
Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que le risque est réel, peut-être pas à court terme, le risque est réel et qu'il n'existe pas forcément tous les remparts pour le prévenir.
Nous n'avons plus les remparts.
Thibaut Casal, on va terminer là-dessus, hein, sur ce risque dit de guerre civile.
Il existe un rempart, le rempart, ça n'a pas été Emmanuel Macron. Hein. Moi, j'ai voté au second tour en 2017 et en 2022 pour Emmanuel Macron parce que Il se présentait comme un rempart, alors qu'au final, c'était une autoroute pour l'extrême droite. Aujourd'hui, le rempart, c'est le nouveau Front Populaire. Et il faut voter nouveau Front Populaire si on ne veut pas tomber dans une situation ingouvernable. Et il faut donner une majorité au nouveau Front Populaire. Et au second tour, j'espère que ce qu'on a appelé le Front Républicain, qui bien souvent ne marchait que dans un sens, hein, c'est-à-dire les gens de gauche qui se désistent pour les gens de droite pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir.
C'était par la force des choses.
Et ben, j'espère que pour une fois, toutes ces personnes de droite qui se disent gaullistes, toutes ces personnes vont éviter qu'un parti créé par des Waffen-SS, par des Vichys, par des membres de l'OAS soit au pouvoir. Donc au second tour, quand il y aura nouveau Front Populaire RN, le vote républicain, c'est le nouveau Front Populaire. Parce que c'est celui qui représente les valeurs de la République, c'est celui qui défend la République, face à ceux justement qui en sont les ennemis. Donc aujourd'hui, il existe un rempart, c'est celui-là. Et si on ne veut pas tomber dans une situation ingouvernable, si on ne veut pas que cette situation laisse la possibilité à Emmanuel Macron de déclencher l'article 16 de la Constitution, eh bien il faut donner une majorité absolue au nouveau Front Populaire. Et comme ça, il y aura une vraie politique sociale, une vraie politique envers les gens avec nos 150 propositions et dès les 100 premiers jours, parce qu'on est quand même les seuls qui, dès avant même d'être élus, disent bien qu'on va rendre compte aux Français et aux Françaises de ce qu'on va faire. Et au bout des 100 premiers jours, on rendra compte de ce qu'on a fait.
Bon, alors qu'on soit d'accord ou pas avec Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou pas, il y a une chose quand même qui est juste, c'est que maintenant c'est aux électeurs de prendre leurs responsabilités et de se prononcer dimanche en se rendant dans les bureaux de vote. Ça, c'est la moindre des choses. Déjà, il faut aller voter.
Oh oui.
On va faire une petite pause, la pause habituelle, avant de nous retrouver tous les trois dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes revenus à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Guillaume Agulot et Thibaut Casal. Donc, autre personnalité clivante et controversée jusque dans son propre camp, Jean-Luc Mélenchon, qui a été très critiqué par Jérôme Guedj lors d'une interview récente sur France Info. Le député PS de l'Essonne, précédemment affilié à la NUPES, mais qui n'a pas souhaité se représenter sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire, a notamment déclaré que le leader de la France Insoumise est un, je le cite, un boulet, un handicap pour le rassemblement de la gauche et des écologistes, qu'il est un repoussoir à gauche et que chacune de ces expressions empêche, que ce soit au premier tour ou demain au second tour, d'éviter l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Voilà qui a le mérite d'être clair. Est-ce que vous considérez aussi que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui un handicap, voire un repoussoir pour la gauche unie, et que ce sentiment est partagé au sein du nouveau Front Populaire, bien au-delà du seul Jérôme Guedj? Qu'en pense Thibaut Casal, le soutien du nouveau Front Populaire ici?
Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il arrive, alors moi je ne suis pas un soutien de Jean-Luc Mélenchon, hein, je ne suis pas la France Insoumise. Il y a deux ans, c'est vrai, j'ai fait campagne pour qu'il soit notamment Premier ministre au sein de la NUPES. Et voilà, moi je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Hein. Donc, mais aujourd'hui, ce n'est pas la question, parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Quoi qu'il arrive, il ne sera pas Premier ministre. Vous avez parlé du fait qu'il ne fait même pas l'unanimité au sein de son parti, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Donc il ne sera pas député non plus. Donc Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que la page est peut-être en train de se tourner et qu'il faudrait peut-être justement arrêter un peu ces débats sur Jean-Luc Mélenchon, et peut-être faire des débats sur d'autres personnes, notamment à l'extrême droite et les personnes qu'on n'entend pas trop, mais comme Marine Le Pen, qui peuvent être beaucoup plus problématiques que Jean-Luc Mélenchon. Bon, tout à l'heure, on a un peu vaguement parlé de cette histoire d'antisémitisme. Je tiens quand même encore une fois à rappeler, Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Et aujourd'hui, celles et ceux qui sont les candidats de l'antisémitisme, c'est par exemple Gilles Bourdoulex, candidat RN en Maine-et-Loire, qui a dit « Hitler n'en a peut-être pas tué assez ». Alors, il ne parlait pas des Juifs, il parlait des Tziganes. Mais moi, quand j'enseigne à mes élèves de 3e le génocide, je dis le génocide des Juifs et des Tziganes. Donc voilà, Frédéric Boccaletti, dont sa librairie vendait des livres négationnistes dans le Var. Voilà, ça, c'est être antisémite. C'est être négationniste. C'est dire qu'il n'y a pas eu de génocide durant le nazisme et durant la Seconde Guerre mondiale. On a Françoise Bilot aussi, candidate RN, qui a rendu hommage au maréchal Pétain dans des publications Facebook. Voilà, ça, ce sont des personnes dangereuses. Ça, ce sont des personnes problématiques. Et si ces personnes-là arrivent au pouvoir, ce sera un problème. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit lui-même, il est candidat à rien. Donc, il ne sera pas Premier ministre, il ne sera pas député. Donc aujourd'hui, c'est un faux problème. Et quant à monsieur Jérôme Guedj, dont je n'ai aucun souci à dire que c'est réellement une personne de gauche avec des combats que j'admire, mais monsieur Jérôme Guedj aurait dû accepter d'être candidat du Nouveau Front Populaire. En le faisant, il émet un doute sur lequel est-il vraiment un soutien de la gauche aujourd'hui qui part de quand même de François Hollande jusqu'à Philippe Poutou. Donc, où est M. Guedj là-dedans? Est-ce qu'il est là-dedans ou est-ce qu'il est, au contraire, avec la majorité présidentielle qui, d'ailleurs, a décidé de ne pas présenter de candidat dans sa circonscription? Bon, ben, nous, on a décidé de présenter une candidate, Ella Kribi-Romdam, qui est coordinatrice de Génération, qui est soutenue par la France Insoumise, qui est soutenue par Europe Écologie des Verts, qui est soutenue par le PS local aussi, qui est soutenue par Place Publique. Donc aujourd'hui, Monsieur Jérôme Guedj, en se mettant hors du Nouveau Front Populaire, eh ben, moi je suis désolé, j'espère que Ella Kribi-Romdam sera élue. Et en aucun cas, ça ouvrira la porte à un Jean-Luc Mélenchon, ministre ou Premier ministre ou député.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, Jérôme Guedj est seul ou à peu près seul à penser que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour le Nouveau Front Populaire.
Bah, pour moi, c'est pas un handicap. En tout cas, pour moi, c'est pas un handicap. Si certains le voient dans ce sens-là, bah, libre à eux. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il faut peut-être même profiter du fait que ce nouveau Front Populaire est peut-être l'occasion de tourner la page avec des personnes qui ont représenté quelque chose pour la gauche. Enfin, c'est quand même quelqu'un dont 20% des votants ont voté lors des quasiment deux dernières élections présidentielles. Hein, donc c'est quelqu'un quand même qui représente quelque chose pour énormément de personnes à gauche. Juste à Toulouse, hein, si vous allez tracter dans plein de quartiers de Toulouse, vous verrez que certaines personnes sont très attachées à la figure de Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il sera pas Premier ministre, il sera pas ministre, il sera pas député.
Bon, pour vous, il est marginalisé. De toute façon, on va tourner la page Mélenchon.
C'est ce on tournera la page
pour
Mélenchon.
Vous, la page Mélenchon est déjà quasiment tournée. Guillaume Agulot, je ne suis pas certain que vous êtes convaincu de ça.
Alors, je suis même certain d'être convaincu de l'absolument
contraire. Oui. Oui, parce qu'avoir la peau de Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être pas si simple. Voilà. On va en parler. Ça.
Le premier constat objectif, formel, factuel, c'est qu'au soir des élections européennes, alors qu'il n'était pas candidat, si, en 81e position, alors que ce n'est pas les têtes de liste LFI qui vont prendre la parole, qui parle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le soir de l'annonce de la constitution du Nouveau Front Populaire, alors qu'il n'est pas candidat, alors qu'il n'est pas chef de parti, qui prend la parole, c'est Jean-Luc Mélenchon. Au débat, on a eu Emmanuel Bompard, là, qui
avait aussi pris la parole lors de l'accord.
Là où je suis très étonné, c'est que pour quelqu'un dont on nous explique que bon, il est marginal, que c'est plus le sujet, je trouve qu'il est à la fois le sujet, le verbe et le complément. Voir le chapitre en intégralité parce qu'il veut rester comme tel. Alors effectivement, il a dit je ne suis candidat à rien. Il avait juste dit deux jours avant je suis prêt à être. Alors on peut effectivement ne sortir que la citation qui nous arrange. Ça c'est mais on a tous fait ça.
Deux jours, il se passe des choses.
On a tous étudié l'histoire. Mais je trouve que pour une personne qui explique qu'il n'est candidat à rien, il vient très très régulièrement lui dire qu'il n'est candidat à rien. Est-ce une manière de ressusciter l'intérêt ?
De se taire, par exemple.
On lui demande aussi. Hein.
Ça peut être une chose. Il y a un autre élément. Vous, j'entends que vous n'estimiez pas que Jean-Luc Mélenchon soit effectivement dans cette situation-là et qu'il n'y a pas de problème. Et j'ai même entendu dire que Jean-Luc Mélenchon était particulièrement apprécié à Toulouse. Alors ça doit être uniquement dans les quartiers où vous allez qu'il était extrêmement apprécié parce que, comme tout le monde, j'ai vu ces sondages. Qui, eux, concernent l'intégralité du territoire national et sont faits avec des méthodes de calcul qui sont connues, qui sont vérifiées, etc., et qui nous ont appris que Jean-Luc Mélenchon est, en France, la personne aujourd'hui politique, la personnalité politique qui suscite le plus fort rejet.
Oui.
Il arrive, rien que le dire me fait frémir, il arrive à dépasser dans le niveau de rejet Éric Zemmour. Je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce qui vient d'être dit. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans l'opinion, dépasse en rejet la figure d'Éric Zemmour. Mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour comprendre que plus personne ne veut de lui, y compris dans son propre parti? Alors, dans son propre parti, on n'ose pas le dire, parce que dès qu'on dit quoi que ce soit, dès qu'on lève une oreille, là, on ne se fait pas Jérôme Guédjizé. Là, on se fait
corbiériser,
on se fait
garidoiser
et simonétiser. Et si on m'avait dit qu'à ce micro, j'en viendrais à apporter un soutien à Alexis Corbière, si lui, pourquoi pas quand même.
Quand même.
Mais Raquel Garrido, parce qu'Alexis Corbière, oui. Raquel Garrido ou Dominique Simonet, si on m'avait dit ça, sincèrement, je ne l'aurais
Daniel
pas cru.
Simonet, oui.
Daniel Simonet, pardon. Je ne l'aurais sincèrement pas cru. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Puisque nous parlons de Jérôme Guedj, eh ben c'est Jean-Luc Mélenchon, l'individu Jean-Luc Mélenchon, qui a dit à propos de Jérôme Guedj, la laisse qui le relie à Jérusalem est encore trop courte. Rapport évidemment après
aussi ce qui avait été dit sur Yael Braun-Pivet.
Mais là, puisqu'on parle de Jérôme Guedj, voilà les propos, les mots que Jean-Luc Mélenchon a dit sur Jérôme Guedj. La laisse qui le relie à Jérusalem est encore trop courte, en ayant fait la phrase d'avant référence à son patronyme qu'il identifie comme étant un patronyme juif. Et il poursuit en disant « La laisse qui le relie à Jérusalem est encore trop courte. » J'entends que pour vous, ça ne soit pas des propos qui soient de nature antisémite. Entendez que pour d'autres personnes, ce sont des propos qui sont, un, dégueulasses, et deux, de nature antisémite.
Ah mais ces propos sont
c'est
totalement
tout.
Déplacés. D'ailleurs, je l'ai
c'est
dit
tout.
Au tout début.
Pas hein. Déplacés, dégueulasses.
Oui,
parce que déplacés,
oui, ils sont dégueulasses.
Bon, voilà.
Je dirais pas le contraire.
Pour autant,
ils sont dégueulasses.
Les cas que vous avez cités sur le Rassemblement National... Mmh. sont effectivement absolument effrayants et effroyables.
Hein, comme ça.
Effrayants et effroyables. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que le Rassemblement National se dit qu'il n'a même plus apporté la parole antisémite. Mais on est où? Un parti qui l'est toujours. Quand j'entends Serge Klarsfeld, pour qui, vous savez, ça a été dit ici plusieurs fois, j'ai dirigé le musée de la résistance et de la déportation pendant de nombreuses années ici. Et quand j'entends Serge Klarsfeld qui dit « Je voterai pour un RN », d'abord, c'est effrayant, mais je crois qu'il faut que l'on mesure aussi ce que cela veut dire par rapport aujourd'hui au sentiment qu'une grande partie, peut-être pas l'intégralité, mais qu'une grande partie de la communauté juive,
de France,
92% des personnes se ressentant de la communauté juive, disent que ce qui fait monter l'antisémitisme, c'est LFI. En réalité, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ça hein, qu'ils ont en tête.
Et quelques autres, tout de même.
Et quelques autres,
que
évidemment. Il n'est pas le seul. Je crois qu'il faut que l'on prenne la mesure de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. L'avocat Richard Malka a une phrase assez extraordinaire. La gauche a abandonné à la droite la laïcité et a récupéré à l'extrême droite l'antisémitisme. C'est effrayant de dire ça. C'est pas la première fois dans l'histoire d'ailleurs hein, où des personnes de gauche et des personnalités de gauche ont des propos.
En parlant d'histoire, on pourrait remonter.
Voilà. Si je remonte à certains propos de Jean Jaurès, bien avant l'affaire Dreyfus.
Lui-même,
l'affaire Dreyfus sera pour lui un marqueur absolu et définitif, et non sans raison évidemment. Mais des propos de Jaurès avant l'affaire Dreyfus, effectivement, sont quand même aujourd'hui seraient considérés comme déplacés. Pour vous, dégueulasse. Pour moi, mais effectivement, juger avec le passé, c'est quand même...
D'où venaient certains collaborateurs bien connus en 40,
bien
on
sûr,
a parlé de Doriot, de Déa, de quelques autres.
Ou de Gaston Bergerie, etc. etc. Là-dessus, aucun doute. L'extrême droite est et reste structurellement, fondamentalement, mécaniquement antisémite. Ils nous disent qu'ils ont changé, personne ne les croit. Et je crois que
sauf
ceux qui...
Malheureusement, beaucoup les croient.
Non, personne ne les croit. Personne ne les croit, ça j'en suis convaincu.
Ah,
par contre, beaucoup de personnes disent « oui, je les crois », ce qui n'est pas la même chose, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il y a parmi les votes d'adhésion au RN un grand nombre de personnes qui se disent « bon, mais alors ça va maintenant, on peut redevenir antisémite, ça va, tout va bien », parce que le socle sociétal, c'est pour ça que je faisais la distinction tout à l'heure entre le social et le sociétal, le socle sociétal, c'est-à-dire ce qui nous permet de faire société, est intégralement brisé. Et mettre aujourd'hui aux prises, il n'y a pas d'autre mot, et aux prises, vous l'avez rappelé, y compris physique, mettre aujourd'hui aux prises une radicalité à droite et une radicalité à gauche n'est certainement pas le meilleur moyen aujourd'hui pour refaire socle, pour refaire société. Et on en parlait du danger. Hein. Ben, je crois que le danger, il est effectivement là, dans ces propos récurrents et répétés, qui, de fait, qu'est-ce qui se passe ? Nous amène à ne plus accorder le regard que l'on devrait avoir à la conséquence, qu'on soit pour ou contre, à la conséquence du programme du Nouveau Front Populaire ou à l'inconséquence du programme du Rassemblement National.
Oui, parce que, bon, Jérôme Guège, effectivement, a dit ce qu'il a dit, mais François Ruffin, lui-même aussi, a qualifié le chef de son propre parti d'obstacle à la victoire de la gauche. Donc, et ça n'empêche pas qu'on entend toujours parler Mélenchon et qu'il y a des gens qui sont derrière lui à la France Insoumise. Donc, je ne sais pas, Thibault Casal, comment vous vous débrouillez avec ça ? Vous êtes persuadé qu'on va arriver... c'est ce que demande d'ailleurs Jérôme Guège. Il demande à Jean-Luc Mélenchon de se taire. On peut faire taire Jean-Luc Mélenchon,
alors, alors, je ne crois pas qu'on puisse faire taire Jean-Luc Mélenchon. Et puis, de toute façon, en vivant dans une démocratie, je n'ai pas envie de faire taire qui que ce soit. Même l'extrême droite, en soi, je n'ai pas envie de les faire taire. J'ai envie de les battre. J'ai envie de faire en sorte de les battre dans les urnes, hein, parce qu'eux, ils préfèrent nous battre peut-être même dans la rue. Mais ils peuvent aussi nous battre dans les urnes, hein, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, on ne peut pas le faire taire. Bon, ça d'accord. Mais ce qu'il faudrait aussi, dans ce cas-là, c'est peut-être que les médias n'essayent pas tous les matins d'essayer de l'inviter, d'essayer toujours qu'il ait cette parole qui, bien souvent, peut être déplacée, des fois, peut être dégueulasse. Là aussi. Alors pourquoi toujours l'inviter à lui ? Pourquoi ne pas essayer d'inviter d'autres personnes ?
On en entend qui, quand même,
alors pourtant,
Insoumise,
on en a. Et pourtant, on en a des personnes qui ont du talent, que ce soit à la France Insoumise et même plus largement au Nouveau Front Populaire. Enfin, on est quand même dans un rassemblement où il n'y a pas que la France Insoumise. Pourquoi pas inviter certains députés du Parti Socialiste comme Boris Vallot ? Pourquoi ne pas inviter Ali Rabé, coordinateur de Génération ? Pourquoi ne pas inviter Elsa Faucillon du Parti Communiste Français ? Bon, les gens et les médias aime bien inviter Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils vont essayer de trouver le moyen à ce qu'il dérape.
Il est certain que c'est un bon client.
À ce qu'il fasse autre chose.
Bon, je ne sais pas s'il faut le pousser pour qu'il dérape. C'est pour ça qu'on puisse lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire.
Il tente, les médias essayent bien souvent quand même de faire en sorte qu'il dérape. Ces derniers temps, quand il est passé à TF1 ou quand il est passé à France 2, dans l'ensemble, quand même, on peut dire que ça a été. Il a évité quand même plusieurs pièges qui lui étaient tendus, et tant mieux. Ce qui prouve quand même que malgré tout, il peut quand même être quelqu'un avec énormément de talent et qui peut quand même faire aussi de belles choses, ce que je crois réellement. Aujourd'hui, si François Ruffin dit ce qu'il dit sur Jean-Luc Mélenchon, bon, ça aussi, c'est leurs histoires internes hein, à LFI. Si tant est que François Ruffin est d'ailleurs vraiment à LFI.
D'abord, vous le situez où, vous, François Ruffin ?
François Ruffin, moi, je le vois comme quelqu'un à Picardie debout, quelqu'un qui siège dans le groupe de la France Insoumise, mais qui n'est pas membre de la France Insoumise. Et il y en a d'autres hein, dans ce cas-là. Hein. Vous pouvez avoir Clémentine Autain, hein, qui est membre de la gauche éco-socialiste.
La gauche éco-socialiste.
Voilà,
absolument.
Donc bon. Moi aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, de temps en temps, peut-être qu'il ferait mieux de dire à certains journalistes « ce soir, je ne viendrai pas ». À mon avis, il le fait bien souvent, hein, parce que je pense qu'il est sollicité tous les jours. Hein. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de savoir ce que va dire Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, encore une fois. Donc ça, je le dis, hein, parce que c'est quand même ce que portent les macronistes, ce que portent l'extrême droite,
le
c'est de dire à ces gens-là. Donc c'est ça, et il est clair et net que si le Nouveau Front Populaire a une majorité absolue, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, polémiquer sur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas à la tête de l'État. Donc c'est un faux débat. Et on pourrait, dans ces cas-là, débattre sur d'autres députés. Lui ne sera même pas député. Donc au final, Jean-Luc Mélenchon ne votera même pas les lois que mettront en place le Nouveau Front Populaire quand ils seront à la tête du pays. Donc voilà.
Enfin, il aura quand même des députés qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon et il aura aussi des députés qui ne le soutiennent pas au sein même de la France Insoumise. Et si Alexis Corbière est élu, si Daniel Simonet sont élus, ce que j'espère parce que nous, à Génération, on les soutient et parce qu'on espère qu'ils seront élus parce qu'ils ont fait un très bon travail lorsqu'ils étaient élus durant les deux dernières années. Pour Alexis Corbière, même, je peux aller plus loin. Donc moi, j'ai aucun mal, aucun souci à dire cela. Donc voilà.
Guillaume Agulot, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens, on surestime un peu leur pouvoir de nuisance ?
Non, je pense qu'on ne surestime toujours pas leur pouvoir de nuisance. Et je pense que le vrai problème, c'est qu'eux-mêmes n'ont aucune conscience qu'ils sont en réalité un pouvoir de nuisance. Vous avez évoqué des députés qui, vous l'espérez, vous avez raison de le faire, soyons très très clairs là-dessus, hein, n'ayons pas peur des mots, lorsqu'ils seront élus députés, ne seront pas forcément inféodés. Mais il y en a d'autres à LFI qui ne seront pas élus députés, parce que même s'ils ont souhaité porter leur candidature, lorsque je l'appelle le leader minimo, a voulu imposer leur candidature contre toute logique. Enfin, quand vous voulez imposer quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale dans une alliance qui dit...
Il n'aurait pas dû être candidat.
Il y a aussi un fichier S, hein, vous savez.
Et on a un fichier S, Raphaël Arnaud, et on a, des cas
parce qu'on parle des gens de radicalité. Louche, au Rassemblement National, il y a des gens...
Des cas de radicalité, on en a partout. Ouais. Mais on m'explique que Adrien Quatennens avait changé, vous savez, etc. etc. Bon, vous avez évoqué François Ruffin, justement, où il a dit, lui, mais comme d'autres, comme tant d'autres, moi j'ai constater avec un effarement absolu la réaction immédiate d'Adrien Quatennens, qui montre bien qu'il n'a absolument pas changé, et que cette radicalité est en train de s'inscrire, elle est peut-être même dans l'ADN de ceux qui ont été biberonnés au fonctionnement Mélenchon, puisque Quatennens a immédiatement répondu, mais en réseau public, donc tout le monde le voit. Tout le monde le voit.
Oui, ça se passe pas en interne.
C'est pour ça, c'est pas régler le problème en interne. Il a immédiatement répondu à François Ruffin, en l'accusant de tous les mots, en lui disant « tu dois tout » à Mélenchon et à LFI, ce qui n'est pas vrai du tout. Hein, le travail, y compris en Picardie, son travail de journalisme, son film Merci Patron, fait avec trois bouts de ficelle, qui a eu quand même un écho absolument incroyable, parce que c'est, là, on est vraiment sur du travail de réalisation sociale absolument majeur et fondamental pour dénoncer effectivement des abus sur lesquels, là, on va se retrouver sans la moindre feuille de papier à cigarette entre nous pour saluer tout ça. Bon, eh ben, en réalité, tout ça, Quatennens le met à part et termine son tweet en disant « Rejoins directement le RN, ça nous fera gagner du temps ». Ça veut dire que voilà où elle est la radicalité. Puisque tu ne dis pas exactement ce que je veux entendre, alors tu es facho. C'est-à-dire cette réduction ad fachoum ou ad hitlerum, ou je ne sais plus comment le dire.
Il n'a pas traité quand même d'Hitler, mais effectivement, il lui a dit « va au RN
». Va au RN, il lui dit « va au RN », tout ça parce que c'est même pas « je ne suis pas d'accord avec toi », c'est « je ne lis pas dans tes propos ce que moi je veux lire ». Mais monsieur Quatennens, si vous voulez lire gloire à Jean-Luc Mélenchon, écrivez vous-même gloire à Luc Mélenchon. Ne reprochez pas aux autres de votre camp, de votre bord, qu'ils ne sont pas exactement d'accord avec vous. Et je crois que c'est là où le pouvoir de nuisance de Mélenchon et de ses soutiens est totalement minimisé, c'est-à-dire qu'il est totalement minimisé par eux-mêmes. Ils continuent de croire qu'ils sont... un peu comme Macron, ce qu'on a commencé à dire dans notre débat. Ils continuent de croire qu'ils sont attendus, espérés comme les messies, tant Mélenchon que Macron. Dans les deux cas, les résultats sont extrêmement clairs. Les Français n'en veulent plus. N'en veulent plus.
Oui. Alors, une chose, j'ai posé une question la semaine dernière. Il y a le fonctionnement interne de la France insoumise. Et les gens qui étaient présents, qui étaient d'ailleurs tous de gauche, disaient que ce n'est pas un fonctionnement démocratique à l'intérieur de la France insoumise. Et vous êtes d'accord avec ça, est-ce que ce n'est pas un problème tout de même de faire un nouveau Front populaire avec des gens qui ont un fonctionnement interne qui n'est pas démocratique? Imaginons que ces gens-là, demain, soient au pouvoir.
Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que si on pense à l'histoire, vu qu'on parle d'histoire quand même pas mal depuis le début, et on parle de fonctionnement démocratique, est-ce que le PCF de Maurice Thorez était vraiment démocratique? Est-ce que ça a empêché le Front populaire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de différence entre Carole Delga et Jean-Luc Mélenchon qu'il y en avait entre Daladier et Maurice Thorez en 1936? Non.
Oui, donc, enfin,
Oui, bah, peut-être que là, le Premier ministre, quand on gagnera, ça se trouve, ce sera un socialiste. Ça se trouve, ce sera un ou une écologiste. Je sais pas. On verra bien. On verra quel sera le résultat à ce moment-là.
Les gens de la France Insoumise ont beaucoup plus de députés potentiels que les autres, tout de même.
On verra bien, parce que quand même, le Parti Socialiste a pu renégocier cet accord. Il y a quand même 175 circonscriptions.
Reste à voir combien ils vont gagner par rapport à la France Insoumise.
C'est sûr. Mais on peut se retrouver dans une situation où on peut avoir 100 députés insoumis, 100 députés socialistes, voire plus un peu de chaque côté, 120, et avoir 70 députés écologistes. Bon, c'est pas impossible. Donc, on verra bien à ce niveau-là. Aujourd'hui, si on veut répondre quand même aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, Adrien Quatennens, lui, oui, est un vrai poids, est un vrai poison pour le nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, il n'est pas candidat.
Mais il s'est retiré de lui-même.
En étant tout à fait honnête, oui. Je pense que heureusement que les militantes et militants féministes du nouveau Front populaire ont fait pression pour qu'il n'y soit pas. Donc aujourd'hui, lui non plus, il ne sera pas à l'Assemblée. Donc lui non plus, il ne sera pas à l'Assemblée. Donc voilà. Sur ce qu'il y a à se dire à ce niveau-là. Donc moi, je pense qu'Adrien Quatennens était un problème, l'est encore aujourd'hui. Et alors, même si je crois énormément dans les secondes chances, qu'une fois qu'on a payé sa dette à la société, etc., mais par contre, quand il s'agit d'être un élu de la République, pour moi, on doit être irréprochable.
Exemplaire.
Ce n'était pas le cas d'Adrien Quatennens, et du coup, Adrien Quatennens ne sera pas député en 2024.
Guillaume Agulot, pour terminer, vous êtes aussi rassuré que Thibaut Casal quant au fonctionnement interne de la France insoumise, qui ne serait pas un problème si d'aventure, demain, le nouveau Front populaire arrivait au pouvoir.
Non, le fonctionnement interne de la France insoumise, très honnêtement, je laisse ça aux personnes de la France insoumise. En soi, c'est pas tellement ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce parti, avec le fonctionnement interne qu'il a, très bien, je le constate, c'est les paroles externes, c'est les prises de position extérieures. Encore une fois, moi, c'est ça qui me gêne, parce que vous avez rappelé effectivement le Front populaire de 1936. On avait un parti communiste qui était plus aux ordres.
Soviétique, staliniste.
C'était soviétique, exactement. Même. Et c'était les consignes communes. On n'a pas entendu une parole qui dépassait, parce que c'était les consignes. Aujourd'hui, on a des paroles de personnes qui partent un petit peu dans tous les sens, et c'est plus ça qui m'inquiète, plutôt que le fonctionnement interne qui relève de leur tambouille.
Fin de cette 159e Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Merci à Coraline, la réalisatrice de cette émission, pour sa fiabilité et sa fiabilité au poste tout au long de la saison. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence, comme d'habitude. Merci à nos auditeurs d'avoir été fidèles à ce rendez-vous chaque semaine. Rendez-vous maintenant à la rentrée début septembre. Je vous souhaite un très bel été et d'excellentes vacances à tous.